9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran, énervé de toutes ses forces, est néanmoins ravi de vous accueillir pour cette émission destinée non pas à vous aider à trouver de l'essence, mais à répondre à vos tracasseries juridiques. Mais avant de répondre à vos questions, évoquons l'actualité pénible de cette semaine et j'aimerais, mon cher Philippe, m'autoriser à manifester toute ma haine à l'égard des grévistes et de la CGT qui nous ont dit et qui continuent de dire donc qu'ils ne reprendront pas le travail. Ils vont donc continuer à nous chier dans les pompes avec leur mouvement au motif que Total aurait fait des bénéfices exceptionnels. Alors certes, les bénéfices ont été exceptionnels, mais de nombreux économistes nous disent que Total, entreprise internationale s'il en est, a fait l'essentiel de ses bénéfices à l'étranger et pas en France. Et puis, ces grévistes de chez Total ne sont pas les moins bien lotis niveau salaire. Je peux comprendre qu'une partie des salariés, tels que des femmes de ménage, qui, pour certaines, commencent à 5h du matin pour travailler 2h, reprennent à 13h pour travailler 3h, reprennent à 18h pour travailler 2-3h, pour un salaire de misère, puissent revendiquer un salaire plus élevé. Mais les femmes de ménage qui font grève, tout le monde s'en fout. Je peux comprendre que ce que l'on a appelé les petites mains fassent grève, je peux l'entendre, mais que ces types de chez Total fassent grève, je trouve ça presque indécent. Alors, au bout d'un moment, je vous le dis, il faut appliquer le principe de la démocratie musclée, qui consisterait, si on devait m'écouter, à négocier avec les grévistes de chez Total, non pas en signant des accords, que la CGT a d'ailleurs refusé, mais en usant de ce que l'on appelle la matraque. Et croyez-moi qu'un coup de matraque en pleine poire remettrait immédiatement les idées en place à ces grévistes zélés. Mais on ne peut pas, paraît-il, puisque l'on est dans un état de droit. Par contre, on peut bloquer un pays, empêcher les compatriotes de travailler. Alors, soyons des automobilistes bolos au point d'accepter que certains jeunes, à Villiers-le-Bel, réquisitionnent les stations-service et filtrent les clients à l'entrée. Donc, si tu fais partie du quartier, tu peux te servir. Et si tu viens de l'extérieur, tu dois accepter des prix bien au-dessus des tarifs affichés. Bah oui, hein, c'est normal, c'est la station de ton père, tu te comportes comme un patron. Vous voyez, mon cher Philippe, on a une pénurie d'essence depuis quelques semaines et c'est le chaos. On est dans une ambiance à la quasi Mad Max. Alors imaginons quelques secondes que demain on ait une pénurie d'eau ou de nourriture. Pour se protéger, il ne faudra pas quitter son fusil à pompe ou son Uzi, sinon tu te feras bouffer tout cru. Mais laissons ces ambiances apocalyptiques pour évoquer l'hypocrisie concernant la Coupe du Monde au Qatar. Il est bon aujourd'hui de mettre en avant le non-respect des droits humains, comme on dit, l'atteinte à l'environnement. On peut se demander si ces protestations ne viennent pas tardivement. On attend le quasi-début de la Coupe du Monde pour manifester un pseudo-mécontentement. Mais la plus grande hypocrisie vient de la maire de Paris, qui était ravie que le Qatar verse des millions pour acquérir le PSG et donne une stature internationale à un club qui, somme toute, était basique et qui, aujourd'hui, vient nous gonfler le slip en appelant quasiment au boycott de la Coupe du Monde. Pour ma part, j'aimerais saluer l'équipe d'Algérie qui a fait exprès de ne pas se qualifier pour ne pas participer à cette Coupe du Monde. Alors, je sais, je me rassure comme je peux. Bon, que vous ayez décidé de suivre la Coupe du Monde ou pas, appelez le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui maîtrise parfaitement le ballon ovale, monsieur Philippe Robichon. À vous,
maestro. Bon, on n'est pas concernés, nous, par tout ça. Maître Serran sur Beurre FM. Bon, vous faites un peu avoir, quand même. Je ne suis pas tout à fait sûr que tous les salariés de chez Total gagnent 5 000 euros.
Voyez. On n'a pas dit 5 000, mais bon, quand... Les types, ils indiquaient entre 2 006, 3 000 minimum et au-dessus. Bon, enfin voilà, un peu de décence quand même. Et puis qu'une poignée de, pardon pour l'expression ce matin, de trou le cul viennent nous bloquer tous. Ouais, moi je trouve ça un peu extraordinaire.
Bah, vous n'avez qu'à rouler à l'électrique.
À l'électrique, d'accord. Donc à minima, donc chacun d'entre nous peut à minima mettre, à minima, 30 000 euros pour acheter une bagnole électrique.
C'est, à mon avis, c'est plus cher que ça.
Oui, bah voilà. Ouais. Ouais. Non, mais c'est.
Maître Serran préfère les coups de fouet.
C'est du foutage de gueule. Non, mais c'est. Enfin, du coup de fouet, faut. Oui, ça peut être mal interprété, ce qui est
dit. Non, enfin, mais non. Faites ce que vous voulez avec vos cheveux, Maître Serran.
Voilà, mais au bout d'un moment, ces réquisitions en carton ou qui consistent à envoyer 2-3 personnes. En plus, je me dis, s'il y a 2-3 personnes, ça tourne. Ben, ils ont qu'à licencier tout le reste, non? Puisque 2-3 personnes, manifestement, les camions repartent avec leur essence. Donc non, c'est pas possible de ce pays. Encore une fois, je vous le dis, mais franchement, soyons tous d'accord pour une démocratie musclée. Je ne cesse de le dire.
D'accord.
Alors, on peut pas fonctionner comme ça et puis faire des courbettes à ces gens-là. C'est pas possible. Alors, on peut pas bloquer un pays pour leur faire plaisir.
Bon, vous poserez vos questions juridiques, bien sûr, à Maître Serran, tout à l'heure, en direct, au 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de C'est tout droit, 01 53 48 3000. Alors, on a parlé la semaine dernière, Maître Serran, de la fameuse OQTF, mais il y a un sigle qu'on connaît moins, c'est le l'IRTF, l'interdiction de retour sur le territoire français. C'est quelque chose qui est prononcé en même temps que l'OQTF ou ça n'a rien à voir?
Alors, c'est ce qu'on appelle une mesure accessoire. Donc, d'abord, quand elle est prononcée, elle est toujours liée à l'obligation de quitter le territoire, donc à l'OQTF. C'est toujours lié à ça.
Ça peut pas être indépendant.
Non, la préfecture peut pas demain imposer une interdiction de retour du territoire sans que ce soit lié à cette obligation de quitter le territoire. Mais c'est une mesure accessoire, alors qui n'est pas obligatoire. Il y a des conditions à réunir pour qu'elle soit obligatoire. Si par exemple vous faites l'objet de ce qu'on appelle une notification, donc vous recevez une obligation de quitter le territoire et que cette obligation de quitter le territoire vous demande de quitter le pays sans vous accorder de délai. En règle générale, c'est 30 jours. Voilà, on vous dit, vous avez 30 jours pour vous organiser, pour partir. Mais il arrive parfois que des obligations de quitter le territoire ne soient pas assorties d'un délai. Dans ce cas-là, vous avez une interdiction de retour immédiate. C'est prononcé pour des circonstances quand même qui sont particulières. C'est-à-dire qu'on considère que vous avez fait des choses particulièrement graves. C'est pas simplement le fait de plus avoir de documents ou d'avoir un visa expiré, mais vous avez fait en plus de ça des choses particulièrement graves, donc on veut plus de vous, donc il faut partir. Si vous avez fait l'objet déjà d'une obligation de quitter le territoire, ou moi, préfet, je vous accorde 30 jours pour quitter ce territoire, et puis vous restez en France, vous faites l'objet d'une nouvelle interpellation, d'un nouveau contrôle, à ce moment-là, je considère que vous n'avez peut-être pas compris ce que je vous ai demandé, donc vous avez une obligation de quitter le territoire qui sera assortie, cette fois-ci, d'une interdiction de retour. Ça va être une punition. Deux cas où ça va s'imposer, c'est obligatoire. En droit, on dit que le préfet a une compétence liée. Donc,
ça reste une compétence du préfet.
Voilà, on considère qu'il n'a pas le choix. Alors, c'est quand même à relativiser. C'est-à-dire qu'on a parfois des circonstances telles que le préfet peut se dire, entre guillemets, que monsieur, madame X ne mérite pas cette sanction suprême. C'est en fonction aussi de votre situation familiale, du nombre d'années que vous avez passées sur le territoire français. Donc il y a quand même parfois des options qui font que le préfet peut être, on va dire, plus ou moins gentil. Et puis il y a le côté facultatif, c'est-à-dire que moi, préfet, même si vous ne constituez pas un danger particulier pour la France, je peux décider d'assortir mon obligation de quitter le territoire à cette interdiction de retour. C'est même parfois plus pénible qu'une obligation de quitter le territoire. Pourquoi ? Bah parce que cette interdiction de retour, il faut savoir que si vous l'avez pas appliqué concrètement, si je vous interdis de revenir en France, alors ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans en fonction des circonstances. Et puis, quand on joue les pénibles, ça peut passer jusqu'à 5 ans. Donc, c'est quand même assez lourd comme sanction. Mais si je considère que vous n'avez pas quitté le territoire de manière concrète, cette interdiction de retour ne démarre pas. C'est-à-dire qu'elle démarre à partir du moment où vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée et à partir du moment où moi, je suis informé que vous avez quitté la France de manière effective. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que, bon, je vais, entre guillemets, me cacher pendant 2 ans et puis je vais me remanifester auprès de la préfecture. Donc non, c'est-à-dire que même si vous êtes planqué pendant 2 ans, votre délai ne s'est toujours pas mis à courir. Donc il faut faire attention à ça. C'est en cela que c'est une sanction qui est particulièrement pénible.
Oui, contrairement à l'OQTF, qui est valable 1 an.
Voilà. Elle devient caduque par la suite. Et puis, vous pouvez ensuite faire vos démarches. Là, si vous n'avez pas quitté le territoire français, ça pose difficulté. si vous retournez au pays et vous demandez un visa de retour avant l'expiration de ce délai, ça vous sera refusé. Mais la sanction, c'est que ce sera refusé dans tout l'espace Schengen.
Oui, c'est pas que la France.
Eh oui, voilà. Donc vous passez par l'Espagne, l'Italie, peu importe. Ces pays-là auront l'information. Alors vous avez quand même la possibilité, heureusement, de contester cette interdiction de retour. Donc vous pouvez la contester. Alors vous pouvez demander, mais je crois que ça arrive jamais, de demander au préfet de faire preuve d'une grande sagesse et puis d'abroger tout seul cette interdiction. Mais bon, on est dans le pur théorique. Vous avez la possibilité, si vous voulez la contester, encore une fois, du territoire, je vous disais qu'il fallait quitter quand même le territoire, mais il y a des circonstances exceptionnelles pour les personnes qui sont incarcérées. Maintenant, sincèrement, je connais pas beaucoup de clients qui sont incarcérés et qui obtiennent l'abrogation de ce type de mesure, mais théoriquement, donc c'est une option. Si vous êtes assigné à résidence, alors l'assignation à résidence, c'est quoi? C'est la personne à qui on demande de quitter le territoire et puis pour des raisons particulières, des raisons exceptionnelles, le départ au pays ne peut pas se faire. Je vais vous assigner à résidence, ça signifie que très régulièrement, vous allez pointer, comme on dit, au commissariat pour vérifier que vous êtes toujours là. Donc, on a ces circonstances particulières où vous pouvez éventuellement demander l'abrogation, c'est-à-dire l'effacement de cette mesure, mais ce sont des circonstances très très particulières. Et puis, je le redis, si vous écrivez d'une maison d'arrêt pour demander l'abrogation, la probabilité pour que le préfet vous l'accorde, elle est quand même infinitésimale.
Enfin, on joue avec les mots, parce que si vous êtes l'objet d'une OQTF et d'une IRTF, vous n'aurez plus jamais de visa pour revenir en France.
Non,
vous voyez,
vous avez raison, mais c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a cette vraie, on va dire, hypocrisie. C'est-à-dire que juridiquement, évidemment, la démonstration se tient, sauf que à partir du moment où vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée et que demain vous sollicitez un visa, il est certain que sur votre fichier, on verra bien que ce monsieur, cette femme a fait l'objet de. À partir du moment où vous avez ça, là encore, les autorités consulaires ne vous accorderont de manière très concrète aucun visa, et puis vous aurez beau contester en cas de refus devant la commission à Nantes, devant le tribunal, là encore, la probabilité d'obtenir gain de cause, elle est quand même faible. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes, mais on peut l'entendre, malgré parfois ces mesures-là, ne veulent pas quitter le territoire. Parce que ces personnes savent pertinemment qu'une fois qu'elles acceptent de jouer le jeu, les autorités françaises ensuite ne jouent pas le jeu. C'est toute la difficulté. Donc il faut quand même faire attention à ça, même si se maintenir en France avec une telle mesure, ça devient très compliqué d'être régularisé. Mais voilà, la situation fait que certaines personnes préfèrent, entre guillemets, galérer parfois pendant des années à batailler devant des préfectures et des tribunaux administratifs que de retourner au pays, de se voir définitivement blacklisté.
Alors, si vous êtes contrôlé et qu'on vérifie que vous êtes victime, enfin, en tout cas, vous faites l'objet d'une IRTF, on vous met automatiquement dans l'avion?
Alors, on vous met pas automatiquement dans l'avion, vous pouvez faire l'objet de ce qu'on appelle une vérification, c'est-à-dire que les policiers vont vous emmener au poste pour voir un peu qui vous êtes. Si la mesure est toujours d'actualité, on va ou on peut vous emmener dans un centre de rétention. Alors c'est aussi en fonction des places qui sont entre guillemets disponibles ou pas. Centre de rétention, c'est là où on va vous placer le temps justement que la France s'organise pour votre expulsion. Et on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière, c'est-à-dire encore faut-il que le pays dont vous êtes originaire délivre un laissez-passer. Voilà. Mais à partir du moment, encore une fois, et ça arrive relativement souvent, à partir du moment où le pays, pour des raisons lambda, ne délivre pas ce laissez-passer, il faut savoir qu'on peut pas, et heureusement, vous garder éternellement au sein du centre de rétention, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, passer tous ces délais, en gros, on peut vous garder 31 jours, mais passer tous ces délais, si la France ne peut pas justifier ces documents-là, eh ben, on va vous libérer, tout simplement.
Dans un instant, vous poserez toutes vos questions juridiques à Maître Mourad Serhan en direct, le samedi matin, vous le savez, 9h-10h, c'est sur Beurre FM. Vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serhan. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous voulez poser vos questions à Maître Serran, vous avez raison. 01 53 48 3000 et Ben Jabala est avec nous, Maître Serran. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Oui, bonjour. En fait, je vous appelle, j'ai un problème avec un kit de trottoir. Pareil, quand vous êtes...
Ouais, alors, vous l'avez reçu quand?
Ben, ça fait un an, là, et obligatoire quitter les territoires.
Ouais, nos QTF, d'accord, une obligation de quitter le territoire.
Oui, pendant 2 ans, ils sont passés ça.
Ah, d'accord, donc vous avez l'interdiction de retour.
Oui, normalement, c'est ça, oui.
Ouais, donc pendant 2 ans.
Oui.
D'accord, donc là, vous nous appelez, vous êtes sur le territoire français, là.
Oui.
Donc, ce qui veut dire que le délai de cette interdiction de retour n'a toujours pas démarré, puisqu'il démarre à partir du moment où vous quittez le territoire.
Oui.
Et votre situation, quelle est-elle? Alors, d'abord, quand vous avez reçu ça, vous étiez quoi? Célibataire, marié? Vous avez
des enfants? Oui, j'étais célibataire, mais j'étais marié religieusement.
C'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent, alors souvent on me dit ça, effectivement, je suis marié religieusement. Marié religieusement, ça ne veut rien dire pour les autorités administratives. Religieusement,
non,
voilà.
Oui, en fait, cette cas, quand j'ai réussi le manquer de trottoir. En fait.
D'accord, c'est-à-dire que, pour comprendre, vous avez cette obligation de quitter le territoire, et vous me dites, mais j'étais marié religieusement.
Oui.
D'accord, ce à quoi je réponds, un mariage religieux n'a aucune valeur aux yeux des autorités françaises. C'est-à-dire que quand parfois je parle de mariage, c'est devant monsieur ou madame le maire, en France.
Oui.
Voilà, mais là marié religieusement, c'est pas un argument, hein.
Ok, mais là maintenant je suis marié avec une petite fille.
Donc là, alors vous êtes marié, donc mariage civil?
Oui, je suis marié à la mienne, quoi.
D'accord, donc et vous avez un enfant?
Oui.
Et madame est de quelle nationalité?
Française.
Bon, alors ça peut, comme dire l'autre, ça peut aider si on raisonne de manière...
D'accord, mais vous êtes marié après avoir eu votre interdiction?
Oui.
D'accord. Alors, est-ce que ça... C'est en mesure de faire changer les choses, Maître Serran.
Déjà, ça veut dire qu'il est certain que les autorités préfectorales, monsieur, même si vous les saisissez, et puis d'abord vous n'avez pas le choix, il faudra d'abord les saisir, vont sûrement raisonner de manière bête et méchante. C'est-à-dire en disant, on vous a demandé de quitter le territoire, vous êtes toujours en France, alors certes, vous êtes marié, vous avez un enfant, mais on va presque dire tant pis pour vous. Donc le seul qui pourrait aller dans votre sens, c'est le tribunal administratif.
Vous avez été devant le tribunal? Oui, je suis parti deux fois.
Vous me dites oui comme refaisés. Ça vous semble évident, mais vous ne nous l'avez pas dit encore. Alors deux fois, pourquoi?
Pour enlever les quais de trottoir, ils ne peuvent pas. En fait, ils sont refusés deux fois.
Alors ça, d'accord, mais marié avec un enfant, vous avez quand même fait la procédure et vous l'ont refusé quand même?
Oui.
Et ça date de quand, ça?
Les premières avant 10 mois ou un peu plus, et la deuxième c'était le rappel, la deuxième c'était à Versailles vers 8 mois, un truc comme ça.
Alors une première décision d'un tribunal et ensuite vous avez fait appel, c'est ça?
Oui.
D'accord. Et alors je sais pas si vous l'avez en tête, mais l'argument, ils vous ont dit quoi? Qu'il fallait quand même retourner au pays et demander peut-être un visa?
Oui, non, je sais plus, parce qu'en fait, tous mes papiers, c'est chez mon avocat, mais je n'ai pas réussi à l'enlever. C'est ça, qu'est-ce que je...
D'accord, mais ce qui est intéressant pour n'importe quel avocat, c'est de connaître ce qu'on appelle la motivation, c'est-à-dire pour quelle raison. Mais a priori, ils ont dû se bloquer alors là-dessus, puisque j'allais vous dire, écoutez, on a parfois quand même des tribunaux qui mettent plutôt en avant le côté familial et l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant fait que un enfant doit avoir auprès de lui son père et sa mère. Donc le fait de vous demander de quitter le territoire, ça peut poser difficulté. Mais là, manifestement, on vous demande de partir. En tout cas, la cour d'appel ne va pas dans votre sens.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors, il faudrait quand même, hein, c'est important. Alors, j'ai pas juste spontanément envie de vous dire, écoutez, recommencer peut-être une nouvelle procédure, mais il faudrait vraiment connaître ce qu'on appelle les motivations, c'est-à-dire les raisons qui ont été invoquées tant par le tribunal administratif que par la cour d'appel pour voir s'il est possible de rectifier le tir. Après, si je veux être pessimiste à l'extrême, si vraiment les arguments du tribunal, les arguments de la cour administrative d'appel, monsieur, sont sérieux et bien motivés, malheureusement, au bout d'un moment, il n'y aura pas d'autre option pour éventuellement régulariser votre situation que de retourner au pays.
Non, mais je ne peux pas rentrer au pays, je ne peux pas laisser ma petite ici, en fait, c'est ça le problème.
J'entends bien, mais la France vous avait demandé de quitter le pays, vous n'aviez pas de femme et pas d'enfant, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le raisonnement des autorités,
voilà.
C'est ça aussi.
Voilà, voilà. Ils sont m'attrapés, je crois, au décembre, au octobre, et je fais le mariage en janvier, quoi.
Ouais. Mais vous voyez, l'argument, c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'en gros, la préfecture considère que vous vous êtes mis en difficulté tout seul. Moi, ce qui me semble particulier, et là, c'est pas de votre responsabilité, il faut savoir que quand une personne en situation irrégulière veut se marier, le maire prévient le procureur de la République. Et le procureur de la République, il regarde la situation, puisque le maire, il dit, écoutez, il y a madame qui veut se marier avec ce monsieur qui normalement, ne devrait pas être sur le territoire français. Le procureur de la République aurait pu s'y opposer. C'est ça qui est assez surprenant. Et donc, si vous êtes marié, c'est que le procureur de la République, en gros, a donné son feu vert. Donc, c'est le côté un peu tordu. D'un côté, vous avez des représentants de l'État, dont le procureur de la République, qui dit « Ok, ce monsieur peut se marier ». Et de l'autre, vous avez des représentants de l'État, le préfet et des magistrats, qui disent « Bah d'accord, on l'a autorisé à se marier, mais en gros, tant pis pour lui ». Donc, c'est vrai que c'est le côté un peu tordu de ce système. Maintenant, monsieur, il n'y a pas mille options, encore une fois, sous réserve de ce qui a été écrit par le tribunal, par la cour administrative d'appel. Peut-être, oui. Mais vous voyez, c'est un gros peut-être. Peut-être qu'il serait utile de ressaisir à nouveau, enfin, vous connaissez le parcours maintenant, les autorités préfectorales. Mais voilà, je n'ai pas envie de vous donner un faux espoir. C'est sous réserve de ce qui a été motivé, de ce qui a été écrit par le tribunal et la cour.
Oui, alors il faut mettre. En fait, Maître Serran, donc ce que vous voulez, le conseil que vous donnez à notre auditeur, donc
c'est éventuellement, encore une fois, sous réserve de ce qui a été écrit. Vous voyez, c'est tout dépend de ce qui a été écrit par le tribunal et par la cour. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autre option. Donc soit vous dites bon bah tant pis, je joue le jeu, je repars au pays, soit vous ressaisissez à nouveau le
tribunal administratif,
la préfecture qui dira non, et le tribunal administratif, puisque vous bénéficiez quand même, vous savez, il y a la disposition de la Cour européenne des droits de l'homme, vous autorise à vous marier même si vous êtes en situation irrégulière. Donc après, c'est du droit international, il y a peut-être des arguments nouveaux qui pourraient être invoqués. Mais c'est une nouvelle bataille.
Voilà, vous pouvez envoyer vos documents à Maître Serran, hein, par mail, d'ailleurs.
Oui, alors c'est maître, M-A-I-T-R-E point Serran, S-E-R-H-A-N-E, @gmail.com. Envoyez-moi les deux décisions et puis je me permettrai de vous rappeler.
Voilà, Benjabala, merci pour votre appel. Karim est avec nous. Karim, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Karim.
Bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Karim.
Voilà, en fait, j'ai une question, en fait, par rapport à ma mère. Du coup, moi, ça fait 3 ans, ma mère essaie d'avoir un visa. Et du coup, à chaque fois, c'est un refus, c'est un refus. Et du coup, il a plusieurs visas. Il est venu étudier ici en France, mais ça fait 3 ans, à chaque fois, il le refuse. Du coup, pour voir, c'est une solution ou un truc comme ça.
Alors, les motifs qui sont invoqués pour refuser le visa.
Aucun motif, à chaque fois.
Alors, il y a force. Voilà, alors c'est peut-être n'importe quoi, mais c'est important, la question que je vous pose. Vous savez, on reçoit un petit papier, il y a des cases, et puis les cases sont cochées. Donc, et c'est là où on connaît les raisons, en tout cas. Je ne dis pas que ce sont des raisons sérieuses, mais les raisons invoquées pour le refuser. Est-ce que ça, vous le savez ou pas?
Oui, une fois, ils l'ont dit par rapport à la banque, et une fois par rapport à, c'était quoi, c'était à l'hébergement. L'hébergement, c'était dans l'or, tout ça, il n'y a aucun problème. Et du coup, à chaque fois, du coup, après qu'on refait le recours, mais il y a encore une réponse, toujours un refus.
Alors voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez saisi la commission?
Oui.
Ils vous ont dit, alors soit s'ils répondent pas au bout de 2 mois, c'est qu'ils refusent, soit on vous envoie un courrier pour vous dire nous on est d'accord avec les autorités consulaires. Vous avez été aussi devant le tribunal administratif de Nantes?
Franchement non.
Alors c'est important quand même parce que très souvent la commission, elle va dans le même sens que les autorités consulaires. Et puis, il faut savoir quand même que le consulat, en droit, on dit qu'il a, il n'a pas une compétence liée. Ça veut dire que la commission pourrait dire, bah, écoutez, nous, oui, on permettrait à madame de venir, mais le consulat pourrait le refuser. Mais ça vaudrait le coup quand même, monsieur, sincèrement, de batailler devant le tribunal administratif de Nantes. Il ne faut pas, entre guillemets, que se contenter du refus ou du silence de la commission. Donc, il ne faut pas hésiter à aller aussi devant le tribunal administratif.
Ok. Et du coup, ma mère, en plus, elle a 60 ans. C'est pas, elle n'est pas jeune, on peut comprendre. Et du coup, après,
enfin, monsieur, on va être clair. Monsieur, 60 ans. Oui. Voyez, il y a quelques années, on me disait le père, la mère avaient 90 ans. Ensuite, on me disait 80, 70, mais 60 ans, ça va. Vous voyez, ça peut pas être un argument auprès des autorités consulaires ou préfectorales pour justifier la présence de votre mère. C'est-à-dire que quand on a 70, 75, 80 ans et qu'on dit, écoutez, mon père, ma mère, tout seul au pays, à la limite, les autorités françaises peuvent le comprendre. 60 ans, enfin voilà, ça va, c'est pas...
En plus, ma mère, elle est tout seule au bled, du coup, je suis fils unique.
Ouais.
Et ça fait 3 ans qu'elle a pas vu ses petits-fils, tout ça, et voilà quoi.
Mais ça, alors, encore une fois, je vais me faire l'avocat pénible, mais ça...
Excuse-moi, maître, même dans la demande, j'ai rajouté un courrier pour expliquer qu'en fait, je suis unique, tout ça, et là, ses petits-enfants qu'elle les a pas vus pour 3 ans, mais sachant que...
Mais ce à quoi ils peuvent vous dire que vous avez le droit de voyager, monsieur? Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez prendre les enfants et aller voir votre mère. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à moins qu'elle ait, mais dans ce genre de situation, on ne le souhaite pas, mais à moins qu'elle ait de gros problèmes de santé, 60 ans... Voilà, non mais, j'entends bien, mais 60 ans, ouais, si vous m'aviez dit, écoutez, elle a 90 ans, 80 ans, bon, encore une fois, même les autorités françaises peuvent être sensibles à ça. 60 ans, enfin, voilà,
Bon, heureusement qu'Elisabeth Borne est allée négocier des visas cette semaine en Algérie. Hein.
C'est ça.
Ouais, mais enfin, je crois que c'est plutôt des visas pour des étudiants, enfin des gens qui peuvent apporter du positif, en tout cas selon les critères des autorités françaises. Hein. C'est moins pour le touriste ou celui qui veut rester sur le territoire français. Mais vaut mieux contester devant le tribunal, monsieur, au bout d'un moment. Hein. Ne restez pas que devant la commission.
Voilà, Karim, ce que maître Serane pouvait vous conseiller, mais on comprend l'envie que vous avez de vouloir votre maman près de vous
légitimement.
En France. Alors, d'autres appels dans un instant. Si vous voulez poser vos questions juridiques à maître Serane, vous composez pendant la courte page de publicité le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
C'est tout droit avec Philippe Robichon et maître Mourad Serane.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Je vous rappelle que tout à l'heure, à 10h, l'imam Abdelali Mamoun sera avec vous.
Enfin, votre place. Il a de l'essence?
Ah,
il va pouvoir venir ou pas?
C'est une bonne question.
Ah,
tel que je le connais, il est allé siphonner au parking.
C'est possible.
C'est que l'imam, il a 2-3 amis. Hein.
Ouais,
ça siphonne.
Bah, je vais lui demander de m'aider alors s'il pouvait siphonner.
Non, mais vous, c'est pas un siphon qu'il faut. Enfin, je sais pas, elle consomme combien votre voiture?
Ah, elle consomme pas bezeuf, non.
Pas bezeuf, tu parles. Bon, alors, c'est pas le sujet, maître Serane. On va à Carcassonne. Abdel est avec nous. Abdel, bienvenue.
Allô, oui.
Oui, bonjour, Abdel.
Oui, bonjour.
Bonjour, Abdel.
Moi, j'ai déposé une demande. Ça date depuis le 25 mars 2021.
Oui.
Et depuis ce jour-là, il me donne que des récépissés jusqu'à maintenant. Sans aucun motif valable, il n'y a rien. Je suis marié, ma femme est...
D'accord, mais vous avez des récépissés?
Ouais.
D'accord, alors, c'est terrible, mais j'avais presque à vous dire, c'est un luxe quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des récépissés, ça veut dire, même si évidemment c'est particulièrement long, mais ça veut dire que les autorités préfectorales examinent votre dossier. Donc, tant que vous avez des récépissés, vous êtes, on va dire, protégé sur le territoire français. Maintenant, on a parfois des mauvaises surprises. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont récépissé sur récépissé et qui, à la fin, ont une décision négative des autorités préfectorales. Donc c'est vrai qu'ensuite la déception est forte. Mais quand on a un récépissé, y a pas de procédure particulière pour demander à la préfecture de rendre une décision plus vite. Ils font le nécessaire. Voilà, votre dossier, vous le déposez chez moi, je vous donne un récépissé, et puis lorsque j'aurai pris une décision, je vous enverrai ma décision. Donc là, y a pas de procédure particulière pour accélérer les choses.
Mais avant, la demande, c'était... Quand je vois un Français, ils m'ont demandé de la changer pour faire sur le dossier d'un parent un parent d'un enfant français.
Ouais.
Et depuis ça aussi, il n'y a toujours pas de réponse.
Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que, alors d'abord, il y a votre conjoint de nationalité française, donc c'est évidemment une bonne chose dans ce type de situation. Vous êtes le père d'un enfant, par définition français. Là aussi, c'est une bonne chose. A priori, je veux pas spéculer, mais a priori, je vois pas ce qui pourrait s'opposer, monsieur, à ce qu'on vous délivre un titre. Maintenant, je le redis, vous avez le droit d'être impatient, c'est légitime, mais tant que les autorités françaises et les autorités préfectorales vous donnent un récépissé, le récépissé, ça veut dire que je suis en train d'examiner votre dossier.
Oui, c'est ce qu'ils ont dit.
Ouais.
Ils ont envoyé un agent pour contrôler. Deux fois, il est venu chez moi.
Bah, donc, il y a des choses qui bougent quand même.
Ah non, c'était depuis janvier, ça.
Oui, ah non, mais...
Dernière visite, c'était janvier.
Encore une fois...
C'est la PAF.
Voilà, c'est... j'entends que c'est particulièrement long. Et encore une fois, vous avez le droit d'être impatient. Mais vous êtes quand même sur la bonne voie, franchement. De par la nationalité de madame, de par la nationalité de l'enfant, et du fait que les autorités préfectorales vous remettent un récépissé... Donc oui, évidemment, il faut faire preuve de patience, mais vous inquiétez pas, a priori, sincèrement, ça devrait aller dans votre sens en difficulté.
Je sais pas, perso, je ne vois pas ce qui va dans mon sens dans ça, parce que ça m'empêche
de... Si, j'aurais pu prendre une obligation de quitter le territoire immédiatement, monsieur. Vous voyez, au bout d'un moment, il faut relativiser le truc. C'est-à-dire que si vous avez vu la personne qui nous a appelé avant... Elle a eu deux obligations de quitter le territoire. C'est quand même plus pénible d'avoir une obligation de quitter le territoire. Là, les autorités françaises vous disent, tenez un récépissé, donc qui vous permet de rester sur le territoire français en situation régulière, le temps d'examiner votre dossier.
Oui, mais même avant, j'ai rentré avec une visa. J'ai aucun souci, j'ai aucun problème. Ça veut dire que tout est clean. Ils m'ont montré la dernière fois mon dossier. Ils ont cherché le BA, je ne sais pas, le B2. Tout est clean, il n'y a rien.
Oui, mais vous étiez rentré en qualité de quoi pour le visa?
C'était visa touriste.
Oui, mais normalement, monsieur, le principe d'un touriste, c'est de venir visiter la Tour Eiffel s'il veut et de repartir au pays.
Non, je ne veux pas.
Non, mais bah oui, on est d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment, enfin, c'est quand même, je trouve ça un peu extraordinaire, votre impatience. À partir du moment où je viens comme touriste, je reste, je fais ma vie, je me marie, j'ai un enfant et je veux en plus que la préfecture me réponde vite. Comprenez le truc, c'est-à-dire c'est un peu compliqué quand même de leur mettre un coup de pression et de dire vous êtes gentil mais vous allez me donner mon titre tout de suite. Ils sont en train de vous dire qu'on est en train d'examiner.
Non, c'est pas ça, moi-même, ils donnent une réponse ou pas, ça, c'est à eux de voir. Mais le problème, j'avais un retrait de permis et ma suspension, elle a pris fin. Jusqu'à maintenant, en août, elle a pris fin, ils ne veulent pas me rendre mon permis, même si c'est un permis étranger.
Oui, mais le retrait de permis, monsieur, c'est dû à quoi?
C'est un contrôle.
D'accord. Et tant que vous n'avez pas votre titre, vous ne pourrez pas demander le changement.
J'ai fait le changement.
Ah, vous avez fait le changement. Donc vous avez dû commettre une infraction pour qu'on vous retire le permis, non?
Non, c'est pas ça. J'ai fait la demande de changement depuis 2021.
D'accord. Non, mais le retrait du permis, c'est dû à quoi?
Infraction.
Bah oui, voilà, monsieur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Moi, je veux bien, mais sauf si vous avez l'immunité diplomatique. Mais vous faites une bêtise. On vous sanctionne et vous venez me dire, bah oui, mais, entre guillemets, maintenant, on ne me rend pas mon permis. Mais c'est à cause de qui?
Gentil, Metteran, gentil. Gentil, gentil.
On peut Metteran, j'ai dit gentil. Être à l'origine d'infraction et dire que les autorités françaises sont compliquées. Quand on est dans une situation administrative fragile, puisque on a des personnes dans une situation administrative fragile. Vous savez, moi, j'ai plein de clients qui sont dans cette situation, ils se tiennent à carreau. Donc c'est terrible, mais faut faire attention à ça, faut pas en rajouter.
Mais si on retient ce que vous avez dit à Abdel, c'est que pour ce qui concerne son cas, vous êtes plutôt optimiste.
Mais bien sûr, mais il est c'est terrible
c'est ça,
je veux dire.
C'est
mais,
ça que j'ai retenu.
Il est bien loti là. Évidemment, faut faire preuve de patience. Mais compte tenu des éléments qu'il vient d'évoquer, il n'y a pas de difficulté pour qu'il soit régularisé. Après, faut être patient.
Bien. Voilà, Abdel, ce que Maître Serhan voulait vous dire ce matin. Fatima est avec nous. Fatima, vous êtes la bienvenue.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, Fatima. Madame.
Je suis entrée en France en 2012 avec un visa de l'Espagne. J'étais en Espagne parce qu'il y avait un problème. Mon frère, il a été assassiné. C'est la deuxième fois que je viens en Espagne.
D'accord.
Et il m'a resté un mois et 20 jours. Je suis entrée en France. Et j'y suis restée. Le 3 mars 2014, je suis mariée avec un Français.
D'accord.
Maintenant, je voudrais faire la demande de la nationalité. Ils m'ont demandé un certificat d'entrée en France. Je ne sais pas où je vais le préférer.
Alors, juste pour comprendre, vous faites une demande de nationalité ou de titre de séjour ?
De nationalité.
Je vous pose la question, mais sur quelle base ? C'est-à-dire que là, en France, vous êtes en situation irrégulière ?
Non, je suis mariée, j'ai ma pièce d'identité de 10 ans.
Ah, d'accord. Donc, après votre mariage, vous avez été régularisé.
Oui.
Voilà, donc ce sont les autorités françaises qui vous ont donné un titre ?
Oui.
D'accord. Donc elle a, puisqu'effectivement à partir d'un certain nombre d'années, j'ai le droit de demander à être français. Donc vous avez déposé un dossier, on vous réclame quoi ?
Non, j'ai pas encore. Je ramasse les papiers, j'ai pas encore.
D'accord.
Mais j'ai vu sur les documents, il y a un certificat de. Il demande un certificat d'entrée en France.
Bah, de toute manière, vous n'êtes pas concerné par ça, madame. C'est-à-dire que voilà, vous allez évidemment expliquer que vous êtes rentré via l'Espagne, mais à partir du moment où les autorités françaises connaissent votre existence et vous accordent une carte, la question se pose plus. C'est-à-dire que vous réunissez toutes les conditions pour pouvoir demander, compte tenu du nombre d'années de mariage avec une personne de nationalité française pour pouvoir demander à bénéficier de la nationalité française. Donc ça, pour vous, ça posera vraiment aucune difficulté.
D'accord, merci monsieur. Et juste une autre question. Est-ce qu'il y a des associations gratuites ici qui vérifient les dossiers ? Est-ce qu'il est complet ou n'est pas complet ?
Je vous dirais des bêtises. Après,
il y a
une association qui s'appelle le GISTI. Vous trouverez ses coordonnées sur le site internet. Je sais qu'ils font des permanences. Beaucoup de mairies aussi, appelez-les. Beaucoup de mairies organisent des consultations gratuites dont vous aurez rendez-vous avec un avocat qui lui va vérifier si votre dossier est complet.
Vous habitez où, Fatima?
J'habite à Paris 18e, 124 rue des Poissonniers.
Dans toutes les mairies, ils organisent des consultations gratuites et puis l'ordre des avocats le fait aussi au sein du palais de justice. Donc voilà, vous pourrez trouver sans difficulté.
Ok, merci, bonne journée. Au revoir, monsieur.
Au revoir, madame.
Alors, il y a des associations qui existent, hein, effectivement. Il y a même des gens qui proposent leurs services, mais c'est pas gratuit. Voilà, donc ils font payer. Oui, ils font payer pour vérifier que, enfin, pour aider les gens à constituer les dossiers, voilà.
Mais c'est vrai que bon, maintenant toutes les mairies ont des permanences juridiques, donc faut pas hésiter à aller sur leur site internet et puis à aller consulter les avocats qui officient.
Est-ce qu'on a le temps de prendre un autre auditeur ou pas ?
Un dernier ?
Oui, bah oui, c'est le principe.
Hein. Allez, le dernier. C'est parce qu'aujourd'hui, Maître Serhan est
particulièrement de bonne humeur. Wafa, coucou.
Allô, oui ?
Oui, bienvenue Wafa.
Oui, bonjour.
On vous passe Grinch pendant 3 minutes. Alors Wafa.
On va raccrocher si vous n'avez rien à dire, Wafa.
Oui, bonjour.
Elle a peur de
vous.
Je vous embête, Wafa.
Par rapport à passeport des enfants mineurs.
Oui.
Alors, je suis en plein divorce avec monsieur. Et avant de partir, j'avais des passeports de mes enfants expirés. Donc, monsieur refusait de refaire les passeports.
Ouais.
Donc, j'étais obligée d'aller voir le consulat et de passer par le service juridique. Et là, ils ont essayé de contacter monsieur. Monsieur était injoignable, donc il répondait pas aux appels. Donc, le service m'a donné une autorisation de refaire les passeports. Et à ce moment-là, j'ai fait les passeports, j'ai récupéré les passeports. Je suis partie en Algérie en mois de juillet. Je suis rentrée en mois d'août. Et après, monsieur, il a su que j'ai refait les passeports. Ça l'a pas plu. Il a été voir le consulat. Et il demande d'annulation les passeports. Est-ce que le consulat a le droit d'annuler les passeports?
Bah non, enfin à partir du moment où, comme dirait, tout ça c'est pas fait en cachette, puisque vous me dites que le consulat est informé de la situation, que le consulat, voilà, a essayé de contacter monsieur, donc il peut pas se réveiller maintenant après avoir fait sa diva et ne pas vouloir donner de signe de vie. Donc non, il y a rien qui justifie, si ce n'est entre guillemets la notion de fraude. Mais là, on n'est pas dans la fraude. Donc non, alors monsieur peut faire des bons en l'air et demander ce qu'il veut au consulat, mais juridiquement, je vois pas comment le consulat pourrait dire ah ben on revient sur la décision qui a été rendue, et ce d'autant plus qu'il y a une décision, il y a un magistrat qui s'est prononcé dans votre situation.
Alors le sujet n'a pas été évoqué à la justice, donc au tribunal. Donc la première audience a eu lieu le 5 septembre, c'était après les vacances.
Ouais.
Et là, le consulat m'appelle pratiquement toutes les semaines pour amener les passeports. Donc là, la dernière fois, j'ai été voir le consulat, mais j'ai pas donné les passeports. Le consulat lui-même me demande de ramener les passeports pour les annuler.
Ah d'accord, c'est-à-dire que le consulat vous dit ça?
Oui, oui.
Bah, le droit s'applique aussi bien aux Français qu'aux Algériens, donc il faudrait qu'il motive, qu'il explique pourquoi, tout simplement.
Alors, prenez le numéro de Maître Serran, vous l'appelez hors antenne, parce que ça risque finalement de prendre plus de temps que prévu.
Je suis joignable au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Voilà, Wafa, et vous poursuivez la conversation après l'émission. Dans un instant, l'imam Abdelali Mamoun est là.
C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.